Bonjour à tous. Merci pour l'attention de la petite bouteille, mais comme j'avais déjà prévu la mienne, mais merci Annick. J'ai mes habitudes. Vous m'entendez bien ? Ok, ça marche. Bon, bonjour à tous et encore bienvenue dans notre église pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes en ce moment en train de faire depuis tout ce trimestre une série sur le royaume de Dieu et donc nous allons continuer dans cette série aujourd'hui. Et pour faire un bref résumé, nous avons vu entre autres que le royaume a été inauguré par la première venue de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Et la Bible nous dit que tout pouvoir, en parlant de Jésus, lui a été donné sur le ciel comme sur la terre. Qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il règne. Mais elle nous dit aussi que si son règne a été inauguré, il n'est pas pleinement visible. Loin de là. Et 1 Corinthiens 15, 25 nous dit, en parlant de Jésus-Christ, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » La manière dont il règne sur ses ennemis actuellement, c'est entre autres en convertissant les cœurs, en les faisant passer d'ennemis à des gens qui prêtent allégeance au Seigneur. Mais le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, nous dit Corinthiens à la suite de ce passage. Et c'est lors de sa deuxième venue, de son avènement, que Jésus-Christ établira pleinement son règne, dont nous attendons son retour, la venue de notre roi. Et c'est la manière dont nous allons parler du royaume aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble que ce retour de Jésus, même si le terme de retour n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament, qui parle plutôt de sa venue, de son apparition, de son avènement, ben ce thème était très présent pour les écrivains du Nouveau Testament et les destinataires de leurs lettres. Et surtout que cette deuxième venue de Jésus-Christ n'était pas un sujet de spéculation, de fièvre eschatologique, ce n'est pas un gros mot, eschatologie ça veut dire les choses dernières, mais c'était plutôt une source de consolation, d'espérance et une motivation pour marcher avec le Seigneur, afin de vivre pleinement le présent. Il y a le slogan d'un blog que j'écoute de temps en temps, qui s'appelle Memento Mori, le blog, il dit « Vivre le présent en prenant la fin comme point de départ ». Et je trouve que ce slogan résume assez bien la pensée des auteurs bibliques dans le Nouveau Testament. Puisqu'ils savent que Jésus va revenir, ça influence notre présent. Et pour cela, nous allons nous appuyer principalement sur un passage de la première épître aux Thessaloniciens, écrite par l'apôtre Paul. Et je vais juste faire une petite intro pour mettre en contexte, pour mieux comprendre après ce qu'on va lire. L'épître aux Thessaloniciens, on peut en lire la fondation, l'église de Thessalonique, excusez-moi. On peut lire la fondation de cette église au chapitre 17 des Actes. Thessalonique, ça se trouve dans Macédoine, c'est-à-dire dans le nord de la Grèce, où Paul et son équipe se sont rendus suite à un songe. Ils sont de l'autre côté, et puis ils ont un songe, enfin de l'autre côté de la Grèce, ils ont un songe où un Macédonien les appelle au secours. Persuadés que ce songe vient du Seigneur, ils se rendent en Macédoine et partagent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans la ville de Philippe, premièrement, puis juste après, en deuxième, dans la ville de Thessalonique. L'évangile annoncé à la synagogue pendant au moins trois sabbats, et certains juifs, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs, reçoivent cet évangile avec joie, tandis que d'autres ne l'acceptent pas, et par jalousie s'opposent à Paul et Silas, au point que ceux-ci sont obligés de partir. L'Église commence de suite dans la persécution. Et il est noté en acte qu'il a pu partager, je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure, la bonne nouvelle durant au moins trois sabbats. Et la plupart des spécialistes pensent que le séjour de Paul à Thessalonique a été de 7 ou 8 semaines. C'est peu comparé à Corinthe, où Paul s'est fixé pendant 1 an et demi pour enseigner, c'est dans la suite des actes, ou à Éphèse, où il a enseigné durant 2 ans. Et à la lecture des Thessaloniciens, on s'aperçoit qu'ils ont été profondément touchés, malgré le peu de temps que l'équipe est restée, par l'Évangile, que le Saint-Esprit a produit chez eux une foi profonde, une joie dans l'épreuve, un amour actif et aussi une espérance. Mais que cette espérance, bien qu'elle soit vivante, elle n'est pas claire. Il semble manquer de connaissances, de clarté sur ce point. Et cela est sans doute dû au court séjour de Paul et de ses collaborateurs. Cela peut nous interpeller, nous aussi. Et nous, où en sommes-nous quant à notre espérance du royaume, à notre attente de l'avenir de Jésus? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous en dit? Notre foi a-t-elle besoin d'être clarifiée sur ce point ou rafraîchie, ravivée? Alors, je ne vais pas vous faire une étude biblique sur tous les passages qui soulignent la venue de Jésus à un Thessalonicien, mais en nous appuyant sur une section du chapitre 4, verset 13 au 5, verset 11, nous allons voir comment pour Paul, et c'est aussi valable pour tous les autres écrivains du Nouveau Testament quand on le lit, eh bien, cette espérance de la deuxième venue de Jésus, c'est une source de consolation, d'encouragement et aussi une motivation pour mener une vie de sanctification. Pour ce qui est de la consolation et de l'encouragement qu'amène le retour de Jésus, Paul le souligne en répondant à une question des Thessaloniciens. Nous lisons cela au chapitre 4, versets 13 à 18, qu'on va lire. Ok. Merci Alexis. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. D'après la lecture de ce passage que nous voulons faire, il semblerait que le Thessalonicien ait mal compris l'enseignement de Paul quant au retour de Jésus et à l'espérance qui y est attachée. Rappelons-nous qu'ils n'ont pas pu profiter longtemps de sa présence, mais toujours est-il que certains frères et sœurs sont décédés et les Thessaloniciens en sont tristes et inquiets. Ils sont inquiets pour eux. Que vont-ils devenir ? Ils semblent penser que la venue de Jésus ne bénéficiera qu'à ceux qui sont encore en vie à ce moment-là. Paul va leur préciser quelle est leur espérance. Nous ne voulons pas que vous soyez tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Ils ont une espérance. Paul va la préciser. Il y a une tristesse normale, due à la séparation, au manque. Et Paul va répondre à cela dans ce passage. Mais l'espérance chrétienne, centrée sur Christ, celle de la résurrection à venir et d'une vie pour toujours avec le Seigneur, va atténuer cette tristesse, va y donner une autre coloration. L'horizon ne s'arrête pas à la fin de cette vie. Et au verset 14, Paul déroule son argument principal, à savoir la résurrection de Jésus. Et si vous voulez creuser ce point, c'est dans 1 Corinthiens 15 qui parle que de ça, sur la résurrection et sur notre résurrection qui s'ensuit. Mais là, dans ce passage, déjà, il s'appuie sur la résurrection de Jésus. Et ceux qui sont morts en Jésus, qui lui appartiennent, ressusciteront avec lui. Il est le Seigneur qui a vaincu la mort. On a beaucoup chanté pendant la louange de chants qui parlaient du règne de Dieu. On a fini par « Il a des projets pour nous d'avenir et d'espérance ». C'était à l'époque, dans le contexte du passage, c'était pour le retour de l'exil. Ça peut être dans notre vie présente, mais ultimement, ce sera avec le retour de Jésus que le plein avenir et la pleine espérance se réaliseront. Et cela nous aide à vivre le présent. Dans le Seigneur qui a vaincu la mort et qui nous entraîne tous dans sa victoire. Au verset 16, ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Les morts ne seront pas oubliés. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, précise un peu plus les choses quant à la résurrection et la transformation de notre cœur. Écoutez, « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Les morts ne seront pas oubliés et ceux qui souffrent présentement dans leur corps non plus. Et le verset 18 de ce passage qu'on vient de lire, on retourne à 1 Thessaloniciens, conclut ces quelques versets par une exhortation à s'encourager mutuellement par ces paroles. Le Seigneur revient. Rappelons-nous-le les uns les autres. Notre horizon ne se limite pas à la vie présente. Donc ce n'est pas seulement le rôle des responsables. Là, il s'adresse à l'église de Thessalonique. Rappelons-nous, le Seigneur revient. Nous l'attendons. Notre vie ne se limite pas au présent. Et qui est ce Seigneur qui revient ? C'est Jésus, mais il a une gloire visible à tous. Jésus, petit rappel, c'est le Fils incarné et glorifié. Il a épousé notre condition il y a 2000 ans, mais quand il s'est incarné en homme, il est resté pleinement Dieu, tout en devenant pleinement homme. Et il est remonté au ciel, siégé sur son trône, d'où il reviendra, en tant que Jésus-Christ, pleinement Dieu, mais en montant au ciel, il est aussi resté pleinement homme, avec un corps glorifié. Il n'a pas quitté son corps, ce n'est pas un esprit. Quand il a retrouvé la gloire d'avant, il est avec un corps glorifié. Ça, c'est important de se le rappeler. Ça dit quelque chose de notre humanité. On dirait même que Jésus-Christ est celui qui est le plus pleinement humain, parce qu'il a un corps parfait, glorifié, pour lequel Dieu nous avait prévu s'il n'y avait pas eu le péché. Il y avait un vieux chant que je chantais quand j'étais jeune chrétien. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si certains le connaissent. Et c'est avec ce corps ressuscité que nous le verrons revenir plein de gloire et qui nous ressuscitera et nous transformera avec un corps glorifié semblable au sien. Si on regarde ce passage, les images employées pour décrire cet avènement du Seigneur sont des images quand même, une voix d'archange, une trompette qui sonne, une trompette divine, ça fait solennel. Et les nuées, nous serons enlevés dans les nuées. Alors, on peut se faire tromper par cette image. Les nuées, ce n'est pas les nuages avec les petits oiseaux. Il y a une symbolique chargée derrière de la gloire de Dieu. On retrouve cette symbolique lors des manifestations majeures de la gloire de Dieu tout au long de l'Écriture. Lorsque Dieu se révèle au mont Sinaï pour passer alliance avec les Israélites, avant les 10 paroles, les versets qui introduisent cette manifestation du Seigneur, Moïse est en train de préparer le peuple, il dit « Tenez-vous prêts, dans 3 jours, Dieu se révélera. » Et puis, les versets qui introduisent cette révélation, quand le peuple arrive au pied du mont Sinaï, le surlendemain, Exode 19, verset 16, « Dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne, et l'on entendit un son de cornes très puissant. » Et par la suite, Moïse va conduire le peuple à la rencontre de Dieu. Un peu plus loin, dans leur pérégrination pendant 40 ans dans le désert, qu'est-ce qui va manifester la présence de Dieu ? La nuit, ça va être une colonne de feu visible, et la journée, la présence de Dieu est manifestée par une colonne de nuée. On continue dans la révélation biblique, lors de l'inauguration du temple, à 1 Roi chapitre 8, les prêtres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont transporter, le temple est construit, ils transportent et installent le coffre d'alliance de l'Éternel dans le lieu très saint. Puis ils vont se retirer du lieu très saint, puis du lieu saint. Puis écoutez ce qui est dit ensuite à 1 Roi 8-10. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Vous voyez, ce n'est pas juste des nuages, la nuée, dans lequel on va rencontrer Jésus. On va le rencontrer dans sa pleine gloire. Lors de la transfiguration, dernier épisode de Jésus en Luc, il est dit à la fin de cet épisode, en 9:34, donc Jésus, vous rappelez, apparaît transfiguré, ses vêtements, son visage. Moïse et Élie parlent avec lui de sa future mission. Ça réveille les apôtres. Et puis Pierre, il dit, est-ce qu'on peut planter la tente avec toi ? Il ne sait pas trop ce qu'il dit là. Je pense qu'il est un peu impressionné par tout ce qui se passe. Et puis d'un coup, une nuée arrive. Une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Ils ont eu un avant-goût de la gloire de Dieu. L'alliance au Sinaï, le temple, Jésus transfiguré, la nuée accompagne et signe la manifestation glorieuse de notre Seigneur. Et c'est ce que pointe ce passage, que nous serons dans les nuées, c'est-à-dire dans la gloire, avec le Seigneur, lorsqu'il nous se manifestera par son avènement glorieux. En plus de toute cette imagerie biblique que Paul remet pour parler de ce passage, il y a aussi une coutume de l'époque romaine. Lorsque le verset 17 dit « Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, les ressuscités, dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur », il fait référence à une coutume de l'époque romaine selon laquelle, lorsqu'un empereur ou un dignitaire important de l'Empire romain venait visiter une de ses colonies, les citoyens de la ville sortaient à sa rencontre pour l'honorer et l'accompagner pour son entrée jusque dans la ville. Actuellement, on peut voir des parallèles, si notre président reçoit un chef d'État étranger, il ne va pas lui envoyer un texto en lui disant « Écoute, quand tu arrives à l'aéroport, il y a des agences de location de voitures, tu mets le GPS sur l'Élysée, ça va très bien. » Ou tu prends un taxi et puis on se retrouve à 19h pour l'apéro. Non, il y a un protocole. On n'accueille pas n'importe qui. On accueille un chef d'État étranger. Il y a un protocole dès l'arrivée à l'aéroport. Puis, après, il va venir en hélicoptère ou s'il a une voiture blindée entourée de motards. Puis lorsqu'il va arriver, il va avoir une compagnie d'honneur de la garde républicaine qui va présenter les armes. L'hymne national va être joué avant des repas fastueux à l'Élysée. Et tout cela sous l'œil des journalistes et des photographes qui seront témoins du face de ce protocole. Et c'est normal. On honore quelqu'un d'important. Ok ? Quoi qu'on pense des personnes, c'est la fonction. Eh bien, du temps des Romains, les citoyens de la ville visitaient, honoraient, selon le rang qui lui était dû, un visiteur important, en allant au-devant de lui pour l'accueillir. Il allait de soi, pour les lecteurs de Paul, qu'il allait être raccompagné dans la ville. Donc quand l'apôtre dit que nous serons pour toujours avec le Seigneur, ce n'est pas pour rester toute l'éternité dans les airs. D'autres passages du Nouveau Testament soulignent que le Seigneur sera parmi nous, dans la Jérusalem céleste, qui sera descendue sur la terre, et que nous vivrons éternellement dans sa présence, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice et la paix régneront. Notre espérance est avec le Seigneur sur cette terre renouvelée. Mais par contre, ce passage souligne l'importance et la gloire du Seigneur. Le vrai Seigneur, qui est vraiment digne, lui, d'être accueilli dans la gloire, c'est Jésus. Au nom de Jésus, on l'a entendu ce matin, je ne sais plus si c'est dans un chant ou dans une prière, au nom de Jésus, toute bouche confessera, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Ça voulait dire aussi pour les gens qui entendaient à l'époque, ce n'est pas César le vrai Seigneur. Et nous, vivants ou morts, on ne ratera pas la vie de notre Seigneur, je vous rappelle. Nous accueillerons celui par qui l'univers a été créé. Nous accueillerons notre Créateur, notre Rédempteur, celui qui va juger toutes choses en justice, celui qui a vaincu la mort. Nous le verrons en pleine gloire. Encouragez-vous mutuellement par ces paroles. Le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous. J'avais un ami qui me disait souvent ça. À Dijon, j'ai un ami de Dijon, c'est une phrase qu'il aime bien. Et je l'ai retenue parce que, ben oui, il a raison. C'est vrai. Même des incroyants, c'est étonnant, ça, le philosophe Luc Ferry reconnaît que le christianisme a vaincu non seulement la crainte de la mort, mais la mort elle-même, par la résurrection de la chair. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'en tire pas les conséquences, lui, pour le moment, jusqu'à ce jour, espérons qu'il change d'avis. Mais en fait, si on en tire les conséquences, ça fait des conséquences de consécration à notre Seigneur et de consolation. Je finirai cet encouragement des Écritures en citant Philippiens 3, 20-21. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, nous sommes une colonie sur la terre en ce moment, de là nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. C'est lui le vrai Seigneur. Ce n'est pas César, c'est personne d'autre dans nos vies. C'est lui. C'est lui qui a tout soumis à son autorité, même la mort. Vous rappelez cette phrase ? Je bâtirai mon église, même la porte des morts ne prévaudra pas contre elle. Son église sera réunie de tout lieu, de tout temps, avec lui. Voilà pour ce qui est ce qu'on vient de voir sur la consolation qu'apporte l'espérance de la venue de Jésus, la source d'encouragement qu'elle représente pour nous. Mais cette venue de Jésus est aussi et très souvent dans les Écritures associée à des exhortations pour veiller, pour mener une vie de sanctification, de croissance spirituelle. Et nous retrouvons ce thème dans la suite du passage de 1 Thessaloniciens. C'est juste la suite, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11, qu'on va lire. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Donc, on voit qu'après avoir rassuré les Thessaloniciens quant au sort des frères et sœurs qui sont décédés, et avoir rappelé leur espérance en la venue du Seigneur et en la résurrection, source d'encouragement et consolation, Paul va aborder la question de « mais comment gérer cette attente ? Comment vivre en attendant le Seigneur ?» Conformément à l'enseignement de Jésus lui-même, à la fin des évangiles, ce qui ressort de ce passage, c'est que Paul exhorte ses lecteurs à veiller, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur, de façon aussi inattendue qu'un voleur dans la nuit. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais reçu un mail ou un courrier d'un voleur qui me disait « Bonjour, je passerai dans la nuit de mardi à mercredi vers 3 heures du matin. Comme je travaille de nuit, si vous pouvez, en plus, c'est fatigant, me faire un petit anka et une petite bière. Ça, c'est pour l'été. Pour l'hiver, sera le café. Et à bientôt. » Non, évidemment. Le voleur surprend. Il en sera ainsi de la deuxième venue de Jésus. Jésus ne se compare pas à un voleur. Il compare sa venue à l'inattendu de la venue d'un voleur, évidemment. Et la deuxième image qui est employée, c'est les douleurs qui saisissent subitement la femme enceinte. Il y a la même idée de soudaineté et d'inattendu. Les gens seront en train de vaquer à leur vie ordinaire, leur train-train quotidien, quand le Seigneur reviendra. Jésus le soulignait déjà, et nous pouvons lire en Matthieu 24, verset 37, lorsqu'il parle de sa venue, Jésus dit « Lors de la venue du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, il y a une référence à Daniel 7, c'est Jésus qui vient, le Seigneur qui vient dans toute sa puissance, dans son autorité. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Il y aura un effet de surprise. » Et on peut faire un parallèle aussi avec notre propre mort. Tout comme l'on ne connaît pas l'heure de notre mort, nous ne connaissons pas l'heure de la venue de Jésus. Mais, la suite du passage nous dit que si nous sommes en paix avec Dieu, ni l'un ni l'autre nous surprendra. Ou plutôt, même si la mort ou la venue de Jésus survient, elle ne nous trouvera pas dans la confusion si nous marchons dans la lumière et non dans les ténèbres. Le voleur surprend durant la nuit. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. À la lumière de ce jour qui a commencé à se lever depuis la résurrection de Jésus et qui sera pleinement dévoilé lors de sa deuxième venue. Et le champ sémantique, le vocabulaire des versets 4 à 8 est riche des oppositions. Nuit, jour, ténèbres, lumière, dormir ou veiller, s'enivrer ou vivre avec modération. Sachant que le Seigneur va venir, nous voulons déjà vivre selon lui, être un témoignage qui anticipe, même si c'est imparfaitement, ce que va être la plénitude de la vie avec lui. Nous voulons, même si nous y tendons sans y parvenir complètement, comme le dit Paul ailleurs, pointer vers celui qui vient, être une contre-culture de son royaume, comme le disait Paul la semaine dernière, le pasteur, pas l'apôtre là. Des ambassadeurs, comme le disait Loïc il y a peu. C'est pour cela qu'au lieu de dormir, nous veillons et nous nous revêtons. On n'est pas en pyjama. Nous nous revêtons de l'armure, de la cuirasse, de la foi et de l'amour, du casque du salut. Non pour que nous procure le merveilleux salut du Seigneur. Hein. Donc on voit que c'est, ça y est, un combat, il y a une armure. Cela ne va pas nous laisser dans une attente oisive, mais au contraire active. La plupart des œuvres chrétiennes importantes, les orphelinats, les hôpitaux, les missions, tout ce que vous voulez, tout ce que le christianisme a produit, tout ce que des gens qui ont une vraie foi dans le Seigneur ont amené, même si des fois on critique beaucoup des défauts qu'a amené le christianisme, on ne se rappelle plus tous les bienfaits qui ont découlé de la vie de gens consacrés à Dieu. Mais tous ces gens-là, c'était des gens qui attendaient ardemment la venue du Seigneur, qui y croyaient. Ça ne les a pas laissés oisifs. Ils ne sont pas restés passifs en attendant. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible entre ça. On peut servir le Seigneur en attendant le retour de Jésus. C'est même ce qui est dit dans la Bible. Et normalement, c'est même une motivation de service. Notre service n'est pas vain. Nos œuvres nous suivront. Et nous ne nous laissons pas non plus déborder par nos envies, par nos émotions, par nos pensées nous renouvelées, mais nous marchons dans la modération, c'est-à-dire dans la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit, car nous espérons en celui qui est, qui était et qui vient. On n'a pas une seule vie, vite, il faut se dépêcher, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il me revient le témoignage d'un ami qui me racontait que jeune, lui était enfant ou ado, je ne sais plus, il avait perdu son frère, très jeune aussi. Et puis du coup, ça l'avait traumatisé dans tous les sens. Mais aussi, ça lui avait donné, arrivé à l'adolescence, il faut que j'en profite, il faut que je vive à fond. Et puis il commençait à partir d'une vie de fête, mais excessive, d'excès de fête. Et puis en fait, très jeune, et puis il s'est converti très jeune aussi, et puis il dit que ça a complètement tout changé. D'un coup, il a réalisé, le Seigneur est venu dans sa vie, l'Esprit est venu dans sa vie, et puis tout ça, c'est tous les excès ont été finis, et puis il a réalisé que la vie ne s'arrêtait pas là, quoi. La crainte de la mort avait disparu, il savait qu'il y avait autre chose, ça a changé sa manière de vie, de vivre. Et vous verrez dans beaucoup de passages qui parlent de la venue du Seigneur, la modération est associée. Ça ne veut pas dire qu'on n'accueille pas les joies de la vie, mais ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas que cette vie. Qu'il y a au-delà, qu'on peut accueillir les bonnes choses du Seigneur et les vivre pleinement, mais sans, pas de manière débridée, parce qu'il y a autre chose. Et pareillement, les tristesses de la vie, ben, nous atteignent aussi. Hein. Comme disait Hélène tout à l'heure, on demande la paix du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on va oublier les problèmes complètement, ce n'est pas ça. Mais on sait qu'elles ne sont que passagères, même si elles ne sont pas faciles à vivre. Nous avons la présence du Seigneur, et cette présence, c'est un avant-goût de son plein avènement. Et ça change notre perspective dans la vie. Je vais relire les versets 8 à 10. Mais nous sommes enfin du jour, faisons preuve de modération, revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivant ou mort, nous entrions avec lui dans la vie. Vous voyez ce petit « car » Puisque nous possédons le salut, puisque Dieu nous a destinés à son salut, ça change notre manière de vivre. Puisqu'il a payé pour nous, ça change notre manière de vivre. Puisque nous allons rester avec lui, voilà, hein, vous voyez. Quand on connaît la destination, la route, même si elle est parsemée d'embûches, excusez-moi, n'est plus la même. Et surtout quand on sait qu'au bout de la destination, il y a l'être aimé, l'être qu'on va Jésus, là, hein, celui qu'on attend, qu'on rencontre, ça change tout. Et au verset 11, c'est pourquoi, à cause de tout ce que l'on vient de lire dans les versets précédents, encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Là aussi, ça s'adresse à toute l'Église. Ce n'est pas que pour les anciens, pour les responsables. Aidez-vous mutuellement. On a tous l'esprit. On connaît tous la parole. On peut tous prier les uns pour les autres. On se rappelle que Jésus va revenir et c'est une source d'encouragement pour marcher avec lui. Et pour conclure ce parcours sur la venue de Jésus dans l'Épître aux Thessaloniciens et la source de sanctification que cela peut être, je citerai une prière qui revient par deux fois sous la plume de Paul dans cette lettre. Paul prie une première fois et demande pour les Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 12, « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez sains et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. » Dans la deuxième partie de cette prière, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges, et tu demandes de sanctification pour les Thessaloniciens. Cette sanctification commence par une prière. Déjà le fait de demander à Dieu de nous transformer, mais c'est déjà dans le processus de la sanctification. Ça commence par ça. Et puis l'initiative va venir de Dieu en réponse à cette prière, et c'est le Seigneur qui l'initiative. Et à cela se rajoute, comme motivation sous-jacente, notre rencontre avec lui, avec le Seigneur, mort ou vivant, ne l'oublions pas. Le désir de lui plaire, de lui être agréable. En fait, des fois, par rapport au fait que nous serons morts ou vivants quand nous aurons rencontré le Seigneur, en fait, si le Seigneur ne revient pas dans notre génération, nous n'aurons rien raté. Vous vous rappelez ? Les morts ressusciteront en premier. Donc le Seigneur, le retour du Seigneur, que l'on soit vivant ou que l'on soit mort, ça va être la même chose pour tout le monde. Les chrétiens il y a 1000 ans, les chrétiens il y a 2000 ans, ils vivront pleinement, autant pleinement, il est même dit qu'ils ressusciteront juste avant, le retour du Seigneur que ceux qui vivront en vrai. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est être saisi par ce retour pour que ça change nos vies. Alors ce n'est pas pour gagner un salut acquis par Jésus, mais par réponse à ce salut, hein, et pour honorer celui que l'on va voir face à face. Et Paul y réitère cette prière à la toute fin de son épître, au chapitre 5, verset 3 à 25, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. On voit les mêmes motifs qui sont répétés. Sachant que c'est Dieu qui agit en nous pour nous sanctifier, nous voulons d'autant plus y participer. Puisque Dieu veut nous sanctifier, veut me sanctifier, ben je veux aller dans le même sens que lui. Et sachant que je vais le rencontrer, je veux marcher dans ses voies, m'habituer dès maintenant à sa présence. L'apôtre Jean, dit sensiblement la même chose avec d'autres mots, en 1 Jean 3, versets 2 et 3. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas été encore rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. » Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. « Car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. » Vous voyez le lien avec la motivation qu'il y a ? Le fait de se rappeler cela va nous donner envie de marcher avec Dieu. Un petit témoignage qui m'est arrivé il y a quelques années, qui est un peu en rapport avec... qui est dans la logique de se garder parce qu'on sait qu'on est gardé. J'étais sur la route, c'était en plein été dans le Vaucluse, il faisait chaud, c'est vers midi, et puis il y a un ami qui m'appelle au téléphone, je réponds, j'ai le Bluetooth, et puis on parle un moment, et puis il me dit « Christophe, je prie pour toi, je sais que tu es souvent sur la route. » Je dis « Oh, ok, merci. » Mais honnêtement, j'ai dit merci, mais dans ma tête, ça me passe par-dessus. J'ai dit merci un peu automatiquement, par politesse. Et puis voilà, je continue, j'arrive à une double voie, deux fois deux voies. Il y avait deux voies dans un sens, deux voies dans l'autre. C'était en plein été dans le Vaucluse, ça circulait. Il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait pas de rond-point. Et ça circulait beaucoup. Et puis je regarde, et puis à un moment, je commence à m'engager. Parce que les voitures qui arrivaient sur ma gauche, c'est bon, je pouvais passer. Et puis d'un coup, je me rends compte qu'il y en a d'autres qui arrivent sur la droite. Je me suis engagé, c'est trop tard. Je me retrouve presque un peu au milieu là, à ralentir, à laisser passer les autres et à repasser. Je passe, puis d'un coup, après être passé, ouf, je me suis fait une petite frayeur quand même. Et puis là, d'un coup, le Seigneur m'a rappelé, tu vois, ton frère a prié pour toi, j'ai répondu à sa prière. D'un coup, ça m'a saisi là, qu'en fait, c'est la prière de ce frère, je sais qu'il y a mes parents qui prient pour quand je suis sur la route aussi, d'un coup, j'en ai vu l'importance, j'ai vu comment le Seigneur l'utilisait. Et sachant que le Seigneur me gardait, je vous promets, ça m'a fait faire attention après sur la route. De temps en temps, je vais me rappeler ça, je suis souvent sur la route. Mais le fait de savoir que le Seigneur me gardait, eh bien, paf, ça m'aidait pareillement à être gardé. La même chose, le fait de savoir que c'est le Seigneur qui agit présentement dans la sanctification et le fait que nous allons rencontrer le Seigneur, être transformés un jour, face à face, comme lui, eh bien, ça nous motive. C'est, voilà, c'est, vous voyez la logique de la chose ? Voilà. Et donc, nous allons voir un jour Jésus face à face. Et cette réalité dans le Nouveau Testament n'est jamais une occasion de spéculer, de chercher des signes extraordinaires pour le futur. Mais au contraire, ces promesses, cette espérance servent toujours à consoler, à encourager, à nous faire croître en Jésus. Car c'est lui le but de notre espérance. C'est lui que nous allons rencontrer, qui sera notre Seigneur, présent au milieu de nous pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci Seigneur pour Jésus-Christ, notre espérance. Merci que de ce que tu as commencé par Jésus-Christ il y a 2000 ans et dans chacune de nos vies, Seigneur. Tu le mèneras jusqu'au bout car tu es un Dieu fidèle. Merci de ce que nous allons te voir un jour face à face et que merci de nous saisir de cette vérité, de la raviver à nous si nous avons besoin qu'elle soit ravivée et qu'elle nous imprègne de plus en plus, qu'elle nous guide dans nos vies afin que nous tenions de plus en plus la place qui t'est due. À toi le Seigneur, qui était, qui est et qui vient. À ton précieux nom, Jésus.